Géopolitique.
Sophie Malibaud.
Bonjour à tous. Géopolitique, le débat nous conduit aujourd'hui dans une zone que les stratèges ont baptisée l'AFPAC pour Afghanistan-Pakistan du fait des nombreuses interactions entre les deux pays, confrontés à une insurrection, à des insurrections même, et cela depuis de nombreuses années. Le conflit ne fait plus la une de l'actualité qu'épisodiquement. Pourtant, même si le gros des troupes étrangères a quitté le terrain, la guerre en Afghanistan n'est pas terminée. Elle se poursuit sous différentes formes. L'importance du nombre de réfugiés qui tentent par tous les moyens de fuir ce pays en témoigne. L'Afghanistan est tout sauf un pays en paix. Depuis plus de 30 ans, la région est en proie à l'instabilité. Nous reviendrons sur la nature d'un conflit en perpétuelle mutation. Comment est-il alimenté? Quels sont aujourd'hui les protagonistes? Et surtout, est-ce que l'implantation de l'organisation de l'État islamique change désormais la donne? Pour en parler, nous avons fait appel à Gérard Chalian. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des conflits armés et tout spécialement des conflits dits irréguliers, terrorisme, guerre asymétrique, contre-insurrection, auteur tout dernièrement de « Pourquoi perd-on la guerre ? Un nouvel art occidental » édité par Odile Jacob, dont tout récemment. Nous recevons également Jean-Luc Racine, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste notamment de la géopolitique de l'Asie du Sud, des relations indo-pakistanaises et de la transition afghane. Et puis Jean-Pierre Perrin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain et grand reporter à Libération jusqu'à il y a peu, puisque vous venez de quitter ce poste. Vous avez fait tous les terrains de guerre au Moyen-Orient, en Afghanistan, et vous êtes l'auteur notamment de cet ouvrage consacré à l'Afghanistan, « Jour de poussière », édité à la Table Ronde. Alors pour commencer, je me tourne vers vous, Gérard Chalian, puisque vous posez la question dans votre dernier ouvrage « Pourquoi perd-on la guerre ?» Vous en faites le titre de ce livre et plus précisément, je voudrais vous demander, en Afghanistan, est-ce que vous considérez que cette guerre est perdue ?
Oui, militairement elle est perdue et politiquement également. Si les troupes américaines se retiraient à la fin de l'année, je pense que les talibans seraient au pouvoir dans le trimestre suivant. Monsieur Obama a décidé de laisser un peu plus de 5000 hommes.
Pour l'instant, ils sont plus nombreux que ça.
Oui, ils sont un peu plus de 10 000 aujourd'hui.
Voilà. Il pourrait s'avérer que ce contingent soit maintenu encore longtemps. Dans ces conditions-là, on peut dire que la guerre, elle se poursuit. Vous dites qu'elle est perdue, elle se poursuit malgré tout.
Oui.
Mais de quelle guerre parle-t-on, en fait ?
Eh bien, la guerre dont nous parlons, c'est ce qui était au démarrage le projet au lendemain de la victoire de 2001, c'est-à-dire lorsque le régime est tombé après le 11 septembre. Il s'agissait de bâtir un État démocratique et le président George W. Bush avait même parlé d'un plan Marshall. Bon, ce plan Marshall, on ne l'a pas vu. L'occupation de l'Afghanistan était très légère. Les modifications ont été mineures. Tout ça se passait essentiellement à Kaboul. On a envoyé quelques troupes composées de 200-300 militaires à gauche et à droite pour aider la population rurale qui tournait autour de 12 millions environ. Et en fin de compte, très rapidement, il s'est révélé que l'Afghanistan a été la victime collatérale de la préparation diplomatique et militaire de la guerre d'Irak que les néoconservateurs considéraient comme l'objectif principal, c'est-à-dire remodeler le Grand Moyen-Orient. Et l'Afghanistan, c'était un théâtre mineur, marginal. Mmh. Voilà ce qui explique, si vous voulez, les débuts de cette affaire.
Mmh. Est-ce que nos autres invités sont d'accord avec cette perception d'une guerre perdue en Afghanistan, Jean-Luc Racine ?
La question, c'est perdue pour qui ? C'est-à-dire, si effectivement on se cale sur la perspective qui vient d'être mise en avant, une fois de plus, d'une certaine façon, l'Afghanistan, tombeau des empires, selon la vieille formule, semble s'être vérifié. Pour le moment, il semble que le président Obama, et tout dépend de voir s'il va écouter un peu plus ce que lui suggère le Pentagone, c'est-à-dire de maintenir les quelques 10 000 Américains. On sait que l'OTAN va prochainement, la préparation de son prochain sommet de l'été, dire ce qu'il pense faire, mais le cœur du problème n'est plus là. Cette guerre menée par la coalition qui a abattu le régime des talibans, qui a été donc une victoire rapide avec l'aide d'ailleurs de certains combattants afghans, faut jamais l'oublier, cette guerre-là, d'une certaine façon, c'est du passé. La guerre qui aujourd'hui marque l'Afghanistan, c'est la guerre entre le régime afghan qui ne pourrait pas mener cette guerre s'il n'y avait pas un appui à la fois financier et en partie logistique par les puissances occidentales, et les talibans qui aujourd'hui, entendons-nous, les talibans afghans, puisque vous aviez fait référence au concept d'AFPAC qu'avait lancé Richard Holbrooke quand Obama a commencé à s'intéresser à cette question. Il y a aussi la question des talibans pakistanais, dont une partie d'entre eux est maintenant réfugiée en quelque sorte dans des sanctuaires côté afghan. Donc, certes, on ne peut pas voir une victoire claire et nette des autorités afghanes se profiler. Je suis pas sûr pour autant que les talibans prendraient le pouvoir et se retrouveraient à Kaboul en quelques semaines si les choses tournaient au plus mal. Le seul point que je voudrais souligner, et on en reparlera probablement, c'est qu'aujourd'hui, le tableau s'est dégradé parce que il y a plus simplement les provinces voisines du Pakistan à l'est et au sud de l'Afghanistan qui sont les zones les plus chaudes. Il y a aussi un débordement de mouvements islamistes basés en Asie centrale qui sont en train d'affecter maintenant, et ça c'est pas totalement nouveau, mais relativement nouveau, toute la ceinture des provinces du Nord, qui est aujourd'hui une zone de très grave tension, comme l'a montré la chute temporaire de Kunduz il y a quelques mois.
En septembre dernier, absolument. Kunduz a été momentanément prise par les talibans et finalement repoussée avec l'aide des Américains.
Absolument. Donc effectivement, la situation est particulièrement difficile pour le régime de Kaboul et pour ceux qui le soutiennent. Pour autant, l'incertitude prévaut sur les développements à venir.
Jean-Pierre Perrin, est-ce que, pour avoir suivi le conflit depuis ses débuts, dans quel état se trouvent aujourd'hui les talibans, à votre avis ? Est-ce qu'ils sont en position de force sur le terrain ?
Oui, ils sont en position de force sur le terrain, mais ils ont quelques problèmes à régler. Ils ont le problème de la succession de Mollah Omar, dont on a découvert... pressentait déjà qu'il était mort, mais on nous a annoncé l'année dernière qu'il était effectivement mort, apparemment vers le mois d'avril 2013 dans un hôpital de Karachi. Et donc se pose un problème de sa succession qui théoriquement a été réglé, sauf que celui qui le remplace n'est pas forcément accepté par tous les autres. La mouvance talibane est assez composite et donc il y a des factions qui ne le reconnaissent pas et qui avancent d'autres noms. Donc on a une fragilité à l'intérieur du commandement, de la chaîne de commandement des talibans, qui est quand même par ailleurs largement décentralisée. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons un certain nombre de talibans qui pourraient être favorables à des négociations, d'autres qui ne le sont pas. Et puis apparaît une menace pour eux qui est les combattants de l'État islamique, l'émergence de l'État islamique en Afghanistan, qui les affaiblit également, en particulier dans l'est du pays, d'après un rapport des Nations Unies qui se fonde sur des rapports des forces de sécurité afghanes. Donc c'est pas forcément un rapport extrêmement précis, mais enfin qui donne quand même quelques indications. L'insurrection talibane, l'insurrection en général, disons, serait à 90% désormais taliban et affilié, et à 10% État islamique, et entre les deux, évidemment, ça ne marche pas, ça ne va pas, il y a une guerre interne.
Est-ce que, Gérard Chalian, est-ce qu'on peut imaginer que, justement, ces deux mouvements, même s'ils sont pour l'instant très équilibrés, puissent à terme se neutraliser les uns les autres, étant donné que les talibans luttent contre l'État islamique en ce moment, ou ne sont pas...
C'est pas équilibré, hein, 90 contre 10% à peu près, c'est pas tout à fait pareil. Gros avantage aux talibans, là, l'État islamique, ça reste quand même une formation à ce jour marginale, mais en progression.
Vous pensez que l'État islamique ne peut pas s'implanter sur ce type de terre en Afghanistan ?
Moi, je crois que c'est hautement improbable. Je crois que les talibans sont bien enracinés, qu'ils connaissent bien le pays, ce sont des Afghans. Je vois pas pourquoi l'État islamique pourrait déléguer du monde et s'emparer. Je voudrais d'ailleurs savoir... Qu'est-ce que nous savons exactement de cette implantation ? C'est-à-dire, qui connaît vraiment ce qu'ils font, qui ils sont, etc. Je veux dire, là-dessus, j'aimerais bien qu'il y ait un observateur quelconque qui puisse nous dire des choses véritablement concrètes. Donc, pour l'instant, pour moi, les talibans sont la force essentielle en face du régime et ils contrôlent les campagnes. C'est eux qui rendent la justice dans les villages. Ils sont, en fait, ce qu'on appelle l'État effectif.
Mais pourtant, bon, il y a eu cet attentat du côté de Jalalabad. Ouais. C'est le Nangarhar qui semble vraiment assez en prise à ces groupes de l'État, de l'organisation de l'État islamique. Ouais. Est-ce que justement le fait qu'ils soient en difficulté en ce moment en Syrie, en Irak, ne risque pas d'envoyer des contingents sur cette zone d'Asie du Sud, comme c'est le cas par exemple pour la Libye? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque?
La Libye est beaucoup plus intéressante pour l'État islamique que l'Afghanistan, qui est tout à fait marginal. La Libye, c'est la proximité de l'Europe, c'est là où ils sont le mieux implantés, c'est là où c'est le chaos, etc. Non, je crois que, franchement, les talibans restent la force principale et qu'ils sont solidement implantés. Ils ne vont pas se laisser déborder par qui que ce soit.
Alors, Jean-Luc Racine, il y a des il y a une volonté de pourparler, enfin surtout de la part du gouvernement afghan, qui a besoin, dans une certaine mesure, de pouvoir avoir un interlocuteur avec les talibans. On en est où sur ce plan-là? Est-ce qu'il y a une discussion possible? On voyait tout à l'heure avec Jean-Pierre Perrin qu'il y a quand même on a un mouvement quand même aussi très fragmenté et tout le monde ne veut pas de cette main tendue du gouvernement afghan.
Ah bah pour le moment, tout est bloqué. Il faut rappeler que c'était le président Karzai qui avait, depuis des années, essayé de trouver le moyen de monter un dialogue au nom de ce qui s'appelait, de ce qui s'appelle toujours d'une certaine façon, avec guillemets, la réconciliation nationale. De multiples tentatives avaient été faites à l'étranger, dont deux ou trois réunions discrètes à Chantilly. Mais la France n'était qu'un des partenaires. Karzai a toujours tout bloqué quand les pistes de dialogue possibles lui échappaient. Tout ça a conduit à l'émergence du bureau de représentation des talibans au Qatar. Ça a bloqué, là encore, quand le bureau de représentation s'est transformé en quasi-première ambassade des talibans à l'étranger. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est avec l'arrivée d'Ashraf Ghani au pouvoir. Ghani est reparti sur de nouvelles bases en tendant en quelque sorte la main aux Pakistanais dans l'hypothèse que les services pakistanais sauraient convaincre les talibans de venir à la table de dialogue. Ce fut le cas une fois en juillet 2015 à Murray, pas très loin d'Islamabad au Pakistan, avec, il faut l'observer, autour de la table non seulement les représentants de Kaboul, des représentants des talibans, des représentants évidemment des services pakistanais, mais aussi des observateurs américains et chinois. Ce qui n'a fait que profiler les configurations d'aujourd'hui, où depuis quelques mois existe un groupe quadrilatéral, c'est son nom, pour faciliter le dialogue entre talibans afghans et représentants de Kaboul.
Mais dans quelle mesure ce type de dispositif peut-il déboucher quand on sait à quel point les intérêts de la Chine et des États-Unis dans la région sont quasi antagonistes?
Pas forcément.
Ils pourraient trouver des moyens de s'entendre.
Tout à fait.
Pour quelles raisons?
Les États-Unis ont demandé à plusieurs fois à la Chine de s'impliquer davantage dans la question afghane, tout simplement parce que Washington considère que Pékin a les moyens de faire pression sur le Pakistan tout autant que Washington même. Donc en mettant autour de la table les Américains et les Chinois, on a deux puissances qui sont supposées peser d'un certain poids sur les Pakistanais. Donc les Pakistanais disent jouer le jeu. La vraie question, c'est de savoir quelles sont les lignes rouges pour un dialogue. La rencontre de Murray l'année dernière, qui a capoté quand ça a été rappelé, le Mollah Omar qui était supposé donner sa bénédiction à cette première rencontre était mort depuis 2 ans, ce qui quand même a mis Ashraf Ghani dans une position délicate. Mais fondamentalement, c'est quoi les lignes rouges pour le dialogue? Au départ, côté Kaboul, la ligne rouge, c'est réconciliation, mais on ne touche pas à la Constitution. Ce qu'on sait des positions talibanes, et là encore, il faut dire que tout le monde n'est pas nécessairement sur la même base, mais il y a eu des rencontres au Qatar menées par Pougvash, l'ONG donc travaillant entre autres sur ce dossier pour la paix, où on a vu des talibans demander des modifications de la Constitution et d'autres demandaient la réécriture de la Constitution. Mmh.
Parce que le programme est toujours le même depuis le début, c'est tout de même l'application de la charia dans des termes les plus obscurantistes possibles.
Oui, mais il y a des discours qui émanent de certains bureaux de représentation ou des messages qui passent par des intermédiaires qui ont pignon sur rue à Kaboul, hein, qui sont des anciens dignitaires du régime du Mollah Omar, mais qui n'ont ni choisi l'exil au Pakistan, mais qui continuent à servir d'intermédiaire, où on nous assure, oui, nous avons tiré quelques conclusions, non, nous ne sommes pas contre l'éducation des filles, etc. C'est pas avec ça qu'on arrive à faire un vrai programme de négociation possible, et c'est bien parce qu'il y a ces incertitudes que les mouvements de femmes afghanes demandent expressément d'être représentés à la table de négociation le jour où, hypothétiquement, des négociations auraient lieu.
Mmh. La raison pour laquelle cette guerre n'a pas été gagnée, Gérard Chalian, est-ce que c'est aussi à cause de la multiplicité des objectifs ? Parce qu'il y avait au tout début cet objectif principal qui était de faire tomber Al-Qaïda, puisqu'il y avait eu l'attentat contre les tours jumelles en septembre 2001. Et ensuite, c'était l'objectif de défaire le régime taliban parce qu'il abritait les membres d'Al-Qaïda. Et puis, en dernier ressort, George Bush est venu avec tout ce discours sur la démocratie et finalement une telle palette d'objectifs, est-ce que c'était réaliste ?
Non, à mon avis, c'était pas réaliste de prétendre construire quelque chose de démocratique en Afghanistan, d'autant plus que c'était fait plus qu'à demi, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif majeur c'était l'Irak. Donc on a bricolé ça avec très peu d'hommes, avec des moyens dans l'ensemble, dans les provinces, tout à fait insuffisants. Et on s'est aperçu, au début, on croyait qu'en 2002-2003, l'affaire était réglée. Puis on s'est aperçu en 2004, moi j'étais beaucoup en province à cette époque-là, 2004-2005-2006, on s'est aperçu que finalement les talibans, réorganisés par les Pakistanais, investissaient le pays. Au début, il y avait des attentats suicides. Et ce qu'on disait du côté afghan, c'est « Ah, ça doit être des étrangers, ça ne fait pas partie de notre culture ». Absurde comme remarque, parce que ça ne fait partie de la culture de personne. On imite simplement une méthode qui marche, qui est économique.
C'est le moyen du faible au puissant.
Avec un seul type qui est décidé à mourir, on peut faire des dégâts considérables, alors que un groupe qui ferait la même tentative n'est pas certain d'y arriver. Donc, ça s'est développé, et puis en 2006, on a découvert d'un seul coup que la coalition perdait 191 hommes. Ça devenait sérieux, et puis on a commencé à se dire, tiens, l'Afghanistan, il se passe quelque chose. Peu de temps après, bon, c'est le rapport Baker-Hamilton qui va faire le bilan, et qui va dire, bon, ben, ça marche pas du tout. En définitive, nous n'avons pas avancé. Il va y avoir l'envoi d'un général qui s'appelle McChrystal, et qui va publier dans le Washington Post un bilan extrêmement sévère, en disant, bon, on n'est pas en train de la gagner, cette guerre. D'abord parce que nos troupes restent cantonnées. Il y a 5 à 10% maximum qui sont dehors. On ne peut pas gagner une guerre en étant uniquement à l'intérieur de camps.
Oui, les soldats américains se barricadaient littéralement.
C'est ça. Et il a ajouté, c'est très difficile, en plus, lorsque le régime est impopulaire et qu'il n'a rien fait pour les campagnes. Et il a ajouté, bon, il faut passer à l'action, être sur le terrain, transformer les choses, et puis s'accrocher. Bon, mais ceci n'est possible que si on a suffisamment de gens, suffisamment de temps. Et le temps, aujourd'hui, il ne travaille pas pour les Occidentaux. Le temps travaille, contrairement à la période coloniale, le temps travaille pour les gens d'en face.
Mais certains expliquent que le temps aussi, quand on s'éternise dans une guerre comme ça, on finit par passer pour une force d'occupation.
Ça, c'est certain qu'on passe pas pour des libérateurs. On est des étrangers. En général, on connaît mal le terrain. On y reste très peu. Déjà, pendant la guerre du Vietnam, le colonel des Marines Carson avait dit, nous n'avons pas fait la guerre pendant 8 ans. Nous avons fait 8 fois 1 an la guerre. C'est une des causes de l'échec.
Nous marquons une courte pause dans ce débat pour une page d'actualité sur les antennes de RFI. Et puis nous retrouvons nos invités tout de suite après, donc Jean-Luc Racine, Gérard Chalian et Jean-Pierre Perrin. Et nous évoquerons la nouvelle donne en Asie centrale avec donc ce début d'implantation de l'organisation de l'État islamique, mais aussi un mouvement taliban en pleine résurgence des deux côtés de la frontière afghano-pakistanaise. Et aussi, on le voyait tout à l'heure, un renforcement dans le nord de l'Afghanistan.
Géopolitique, Sophie Malibaud.
Géopolitique, le débat se poursuit en compagnie de Gérard Chalian, spécialiste des conflits armés et tout spécialement des conflits dits irréguliers, terrorisme, guerre asymétrique, contre-insurrection, auteur tout dernièrement de « Pourquoi perd-on la guerre ? Un nouvel art occidental » édité par Odile Jacob. Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de la géopolitique de l'Asie du Sud, des relations indo-pakistanaises et de la transition afghane. Et puis Jean-Pierre Perrin, écrivain et grand reporter à Libération jusqu'il y a peu. Vous étiez donc sur tous les terrains de guerre au Moyen-Orient et en Afghanistan. Vous êtes l'auteur notamment de Massoud, des Russes aux Talibans, 20 ans de résistance afghane. Et puis un autre ouvrage tout particulièrement sur l'Afghanistan, c'était Jour de poussière aux éditions de la Table Ronde. Donc on le disait tout à l'heure, une résurgence des talibans dans ce pays qui fait que la guerre pour l'instant semble en échec. La guerre menée contre le terrorisme, menée contre les talibans, et le régime a du mal à se maintenir. N'y a-t-il pas tout de même, je me tourne vers vous Jean-Pierre Perrin, des acquis après cette décennie d'implication des forces étrangères en Afghanistan? Les femmes ne sont plus bouclées comme elles l'étaient du temps aux pires années des talibans dans les années 90.
Elles ne sont plus bouclées, comme vous dites, dans certains petits coins de l'Afghanistan, dans certains quartiers de Kaboul, même pas dans tout Kaboul. Non, il y a eu effectivement des avancées. On voit beaucoup plus de jeunes filles sur le chemin de l'école. On voit beaucoup plus d'enfants globalement dans les écoles que, évidemment, sous la période ténébreuse des talibans. Mais enfin, par rapport à l'argent dépensé en Afghanistan, quand même, les progrès sont très minces quand même. Effectivement, il y a eu l'émergence d'une jeunesse, si vous voulez, d'une jeunesse essentiellement urbaine, qui, elle, effectivement, pense différemment, a acquis une certaine liberté. Mais alors, son premier souci, souvent, c'est de quitter le pays. À peine sort-elle de l'université, à peine sort-elle de cette jeunesse de quelques bons établissements de Kaboul, qu'elle n'a comme souci que de venir en Occident, comme s'il y avait finalement un hiatus irréductible entre le pays profond et puis ces jeunes qui sont effectivement tournés vers l'Occident et pris de modernité et qui n'imaginent guère leur avenir en Afghanistan, en particulier depuis que l'Afghanistan s'enfonce dans une nouvelle guerre civile.
Mmh. Jean-Luc Racine, il n'y a pas d'avenir en Afghanistan. Où est passé l'argent envoyé par le monde entier ?
Ce sont deux questions distinctes. Il n'y a pas d'avenir en Afghanistan. Ah. Ma réponse serait quand même si, espérons-le. La deuxième question, là, elle porte sur, évidemment, la grande boîte noire dénoncée perpétuellement par le président de la République, dont on ne doit pas oublier qu'il a servi un temps à la Banque mondiale, c'est-à-dire la corruption.
Donc, c'est vrai qu'Ashraf Rani était, lui, à la Banque mondiale.
Quand on parle de transition afghane, hein, celle de 2014, c'était à la fois le passage d'un président à un autre, avec des points d'interrogation sur la survie du duo Ashraf Rani-Abdullah-Abdullah.
Ça, c'est le fruit d'un compromis, d'un scrutin déjà qui était assez trouble.
Voilà, un compromis dessiné par John Kerry, le secrétaire d'État américain. Il y avait la transition donc militaire, puisque l'essentiel des forces de l'OTAN, à son pic, vers 2011, il y avait quand même 140 000 hommes, dont à peu près 100 000 Américains. Donc aujourd'hui, ça a été coupé, ils sont 10 000, pour faire bref. Hein. Mais la troisième transition, c'était la transition économique, due aussi au fait que l'économie de la guerre, ça existe. On a ici des spécialistes des conflits, l'économie de la guerre, ça veut dire qu'il y a des tas de gens qui ont intérêt à ce que la guerre se poursuive. On l'a vu au Sri Lanka. Hein. Et là, c'était une guerre civile sans grand apport de forces extérieures. Mais la question de l'argent est déterminante et la question de la corruption est absolument déterminante. Mais là, on touche à des questions qui sont, je dirais pas structurelles, parce que je veux pas laisser penser que la corruption, c'est un fait structurel de l'Afghanistan, et l'Afghanistan n'est pas le seul dans ce cas, mais c'est un des défis majeurs qui se rattache très clairement à cette transition. Et c'est bien pour ça que les pays occidentaux, mais pas seulement, la Chine apparaît aussi dans le tableau, se sont engagés à continuer à fournir une aide économique et financière au régime, dans une... Alors après, on laisse tomber la rhétorique, la décennie de transformation, etc. Mais tout le monde s'est bien rendu compte qu'on ne pouvait pas abandonner l'Afghanistan simplement parce qu'il avait été décidé de retirer l'essentiel des troupes de l'OTAN. Et pour leur part, sur ce plan militaire, bon, force est de constater que l'armée nationale afghane et la police n'accomplissent pas de miracles, mais ils ne se sont pas effondrés. Et ils paient, alors là c'est un vrai problème, un coût très lourd. Mm-hmm. Jamais les pertes militaires et civiles afghanes n'ont été si lourdes qu'en 2015.
Mm-hmm. Alors il y a deux choses que je voudrais aborder. Tout d'abord la drogue, parce que la corruption dans le pays, le ferment, c'est les cultures d'opium, c'est la drogue. Je crois que l'Afghanistan fournit 90% de l'opium mondial. Ça c'est Gérard Chalian, une autre défaite des armées occidentales. Elles ne se sont pas saisies de cette question. Et du coup, les financements pour les insurrections demeurent.
On n'a jamais cessé d'en parler. Il était question de liquider, d'apurer enfin, le problème de la drogue en 2002, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, effectivement, aujourd'hui, l'écrasante majorité de la drogue, je ne sais pas si c'est 90%, ce n'est pas facile à calculer parce que tout ça, c'est quand même plus ou moins clandestin. Mais enfin, c'est le principal fournisseur, oui. Et tout ça, ça profite évidemment à la fois au régime, ça profite aussi aux talibans et ça profite à énormément à tout un tas de gens dans le passage et à l'arrivée. Et la drogue reste un phénomène majeur, beaucoup plus important, par exemple, dans ses effets que le terrorisme. Mm-hmm. Tous les spécialistes de la drogue et du terrorisme estiment que le terrorisme par rapport à la drogue, c'est quelque chose de relativement limité comme effet.
Et comment expliquer alors qu'on ait laissé, parce que ce sont des containers entiers, ce sont des tonnes de narcotiques qui sortent des frontières. Est-ce que c'est réaliste de penser que ça ne se voit pas, Jean-Pierre Perrin?
La géographie de l'Afghanistan se prête quand même pas mal à ces opérations. Vous avez d'abord une frontière de 1800 et quelques kilomètres entre l'Afghanistan et le Pakistan. Vous avez une frontière aussi extrêmement longue entre l'Afghanistan et l'Iran. Vous avez le Baloutchistan. La population baloutche est majoritairement au sein du Pakistan, mais il y a aussi des Baloutches du côté afghan. Et là, vous avez des frontières qui sont extrêmement floues. Et donc, en plus, toutes les populations sur place ont une tradition de contrebande. La frontière n'a jamais été un obstacle pour elles. Donc, tout ça communique extrêmement facilement. C'est extrêmement difficile de venir à bout des trafiquants de drogue, qu'ils soient afghans, pakistanais et iraniens. Les Iraniens, par exemple, ce sont quand même, chaque année, perdent des dizaines de policiers à lutter contre la drogue. Ce sont pas, quand on imagine des trafiquants de drogue, il faut les imaginer comme ils sont, c'est-à-dire avec des convois blindés, avec un armement sophistiqué, avec des mitrailleuses, ce sont des vrais escouades. Donc, c'est pas du tout facile de lutter contre le trafic de drogue en Afghanistan.
Un mot pour compléter, comment contrôler lorsque ni les Américains ni le régime ne contrôlent le pays? Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez contrôler? Vous ne contrôlez pas le pays, c'est simple.
Oui, Jean-Luc Racine.
Oui, il y a quand même un autre paramètre. Alors évidemment, le contrôle du pays est indispensable. Mais même si on contrôle le pays, c'est une économie de la drogue. Combien...
On parle quasiment de narco-État.
Narco-État, tout à fait. Bon, mais c'est pas seulement les questions des trafiquants. Le petit paysan familial, quand il cultive un champ d'opium, ça lui rapporte infiniment plus que s'il cultive ce qui était des cultures traditionnelles.
Oui, il était question de remédier à ça. Il a été question d'implanter des cultures.
Absolument, pendant
éviter.
Des années. Mais on sait parfaitement que ça ne peut être qu'un travail de longue haleine, mettant en cause la quasi-totalité des services de l'État, et là on se retrouve face à la définition d'un État faible, pour avoir des cultures de substitution. Il y a tout un pan du travail des Nations Unies en Afghanistan qui porte là-dessus, mais c'est un véritable casse-tête, au-delà de ce qui est le problème que vous avez à juste titre évoqué, qui est celui des filières de la drogue. Mais tout commence quand même par une paysannerie familiale qui a trouvé ce moyen de remplir un peu les caisses quotidiennes.
Jean-Pierre Perrin.
Et jusqu'à présent, il y avait une exemption afghane de la consommation de drogue, et ce qui n'est plus le cas. Maintenant, la population afghane est touchée. Et ce qui est encore plus incroyable quand on connaît la condition de la femme en Afghanistan, c'est que les femmes afghanes également sont touchées par le fléau de la drogue, ce qui est la triste nouveauté de ces 10 dernières années.
Mmh. Alors pour lutter, il faudrait aussi qu'il y ait des forces de l'ordre dignes de ce nom. Enfin, des efforts ont été faits pour former l'armée afghane, la police afghane. Gérard Chalian, ça aussi, c'est un point faible du moment où les forces étrangères étaient censées donc former correctement ces gens-là.
Non, mais la substitution dont Racine vient de parler n'est possible que s'il y a un pouvoir fort, capable effectivement d'offrir une perspective de substitution à une paysannerie. Ça n'est possible que si on a un despote éclairé qui tient le pays d'une main de fer. C'est pas du tout le cas en Afghanistan.
Mmh. Ou alors un régime qui se démocratise réellement, vous pensez que ça ne s'applique vraiment pas?
N'exagérons pas, je veux dire.
Jean-Luc Racine.
La question de savoir, par exemple, si les troupes afghanes ont été entraînées à la lutte contre la drogue. Pour le moment, ils ont d'autres priorités, qui est la lutte contre les talibans, même si les talibans, comme un certain nombre d'officiels, bénéficient de la drogue. Donc, se battre sur tous les fronts, il est clair que la lutte contre la drogue aujourd'hui est passée quand même au second plan, si tant est qu'elle ait jamais été au premier plan.
Mais est-ce que c'est pas une erreur? Parce que ce que l'on voit aussi, c'est ce qui se passe à la frontière nord. Avec le Tadjikistan, c'est encore une zone de trafic intense.
Mais oui,
ça la nouvelle menace dont vous parliez tout à l'heure, pour élargir un petit peu vers l'Asie centrale.
Et c'est aussi un des problèmes auxquels est confronté Vladimir Poutine, parce que les routes de la drogue, ça remonte par l'Asie centrale et par la Russie. C'est pas tout à fait étonnant que Poutine commence à envisager de renouer des liens. Enfin, il a fait plus que commencer à renouer des liens avec les autorités afghanes.
Oui, mais alors.
À la fois pour la question de l'islamisme radical, pour l'appeler comme ça, sur les marges de l'Empire russe, entre guillemets, c'est-à-dire dans les républiques d'Asie centrale, bordière de l'Afghanistan, et sur la question de la drogue, qui est absolument décisive pour Moscou.
Est-ce qu'il vous semble qu'on évalue correctement le danger qui prévaut actuellement au Tadjikistan du fait d'une émergence de militants radicaux, d'insurgés qui n'existaient pas auparavant? Il y en aurait un millier qui seraient partis combattre dans les rangs de l'organisation de l'État islamique. On a même vu en août 2015, je crois, le chef de la police spéciale tadjik faire défection pour rejoindre l'organisation de l'État islamique. À quel point cette menace est-elle réelle au Tadjikistan?
Elle existe au Tadjikistan, elle existe également chez les Ouzbeks. C'est-à-dire que l'ensemble de l'Asie centrale est incertaine, agitée par des mouvements de type islamiste, etc. Ceci dit, ce n'est pas encore massif, mais c'est à suivre de près. Le Tadjikistan a depuis longtemps été une zone de toute façon très agitée. Il y a eu des mouvements de guérilla dans les années 90. Tout ça existe dans la mesure où finalement on n'a pas de pouvoir véritablement stable, on n'a pas un développement véritablement impétueux. Tout ça fait que dans cette zone-là, on est dans une zone de turbulence.
Le président Rahmon, ça fait 23 ans qu'il est au pouvoir. En fait, ce qui se passe avec le Tadjikistan, c'est quand même la zone par laquelle les Américains passent par Douchanbé pour envoyer leurs forces, etc. Donc personne n'ose trop s'en prendre au président Rahmon qui, lui, a engagé, a serré la vis. On est dans quelle situation? Est-ce qu'il y a un excès d'autoritarisme qui menace d'alimenter le radicalisme et une opposition en l'absence d'opposition moderne? Finalement, ce sont des djihadistes qui commencent à œuvrer clandestinement.
Pas les djihadistes, non. Ce sont essentiellement quand même en Ouzbékistan, au Tadjikistan, ceux qui se battent contre le régime, ce sont essentiellement des Tadjiks et des Ouzbeks. Alors, qu'il y ait un apport de volontaires étrangers, sans doute, mais essentiellement, le mouvement islamiste ouzbek, il est constitué d'Ouzbeks, essentiellement. Donc, ils sont à l'aise chez eux, Ils ont largement essaimé en Afghanistan pour profiter de la situation d'accueil dans les montagnes qui leur est extrêmement favorable, où ils s'entraînent, où ils ont des camps. Mais quand on parle d'État islamique en Afghanistan, au Pakistan ou en Asie centrale, ce sont essentiellement des gens du cru, quand même.
Alors, oui, ça, je crois que c'est très important, parce qu'il y a toujours un problème quand on parle d'État islamique et qu'on est en dehors de son foyer. Irako-syrien, pour faire bref. C'est que, on a vu ça, parce qu'on peut dire aussi, il y a l'État islamique au Cachemire, parce que quand il y a des manifestations anti-indiennes au Cachemire, maintenant, les gars, ils sortent pas seulement des drapeaux pakistanais, il y a quelques excités qui sortent le drapeau noir de Daesh, parce que ça fait bien devant les caméras. La vraie question, elle est là. Quand on parlait tout à l'heure de l'État islamique dans la province de Nangarhar, où il y a, semble-t-il, eu quelques revers, et maintenant, il bouge vers la province voisine de Kunar, ce sont essentiellement des gens du cru. Après, ils donnent allégeance à l'État islamique, et dans sa grande bonté, al-Baghdadi peut leur envoyer une bénédiction. Mais d'ailleurs, dans ces gens, côté afghan en tout cas, il y a d'anciens talibans, canal historique si j'ose dire, qui sont pas d'accord avec les luttes de pouvoir, le ceci et cela, mais c'est pour ça que je pense que c'est très difficile de savoir ce qu'est véritablement l'implantation réelle de l'État islamique dans la région, pendant longtemps, au Pakistan, en Afghanistan et ailleurs, la ligne politique officielle, c'était pas du tout, pas du tout, pas du tout. Aujourd'hui, on met ça sur la table, et parfois, d'ailleurs, je me demande si on n'en rajoute pas un peu pour montrer qu'on a besoin d'une aide étrangère. Mais la vraie question, et là, vous l'aviez dit, les régimes post-soviétiques d'Asie centrale n'ont laissé aucun espace, finalement, démocratique, et ont verrouillé complètement la pratique de l'islam. Donc, une des soupapes de sécurité, c'était par exemple, le mouvement islamique d'Ouzbékistan, qui avait d'ailleurs des combattants dans les zones tribales pakistanaises auprès des talibans. Et on pourrait dire d'une certaine façon la même chose pour quelques militants ouïghours qui sont évidemment sous l'œil de Pékin.
Le président Rahman, finalement, a les mains totalement libres. Il n'y a pas d'action diplomatique, il n'y a pas de... Personne ne cherche à peser sur ce régime pour qu'il s'ouvre et pour éviter, pour donner de l'air à une opposition.
Ah non, parce que là, je pense que la communauté internationale, si on accepte ce concept, là encore, il y a tellement de choses sur la table que de savoir si le président Rahman prend quelques libertés avec les droits de l'homme dans la chasse à l'État islamique, véritablement, ça n'émeut pas beaucoup les chancelleries. Hein, et je pense d'ailleurs que ce qui se passe en Ouzbékistan intéresse plus encore, parce que là, l'Ouzbékistan pèse plus lourd que le Tadjikistan à de multiples égards. Et c'est une des raisons, bien sûr, pour lesquelles la Chine est maintenant partie prenante des tentatives de sortie par les consultations, le dialogue, ou au moins les rencontres qui devraient préparer un dialogue. Donc, pour le moment, donc...
Mais
reste très incertain.
Gérard Chalian, c'est une nouvelle forme de guerre qui a lieu avec cette espèce de continuité entre l'intérieur et l'extérieur dans chacun des États, avec ce pont qui se crée comme ça autour de l'État islamique, parce qu'il est facile pour l'organisation de l'État islamique de revendiquer a posteriori des actions commises ça et là. À quelle forme de guerre on assiste?
Non, c'est pas une nouvelle forme de guerre, c'est une guerre irrégulière très classique, simplement comme elle concerne...
C'est un peu paradoxal, irrégulière et classique.
Oui, enfin, vous avez raison, sémantiquement. Mais c'est une guerre irrégulière, comme d'habitude, et cette guerre irrégulière, elle a la particularité de concerner une large zone qu'est l'islam. Voilà, c'est ça, si vous voulez, la nouveauté. C'est qu'au lieu d'être situé comme un mouvement national, avec juste un mouvement qui serait bien localisé, et puis une possibilité d'avoir un sanctuaire, etc., là, on a des gens qui bougent. Quant à se réclamer de l'État islamique, vous savez que, finalement, aujourd'hui, c'est chic. Ça a été prestigieux, au lendemain de l'été 2014, de changer d'affiliation. C'est-à-dire, j'étais d'Al-Qaïda, maintenant, je passe, parce que c'est nettement plus prestigieux, à l'État islamique, et l'État islamique est très content de m'adouber. Mais dans la pratique, ça change quoi? Est-ce que véritablement l'État islamique contrôle Boko Haram? Est-ce que l'État islamique contrôle ceci, cela? Il ne faut pas se laisser impressionner, si vous voulez, par l'apparence de l'affiliation. Dans la pratique, tous ces mouvements sont quand même relativement isolés. Ils souffrent de difficultés d'approvisionnement, ils souffrent de difficultés de sanctuaires. Ils ne progressent pas beaucoup. Je veux dire qu'il y a aussi toute cette propagande, attention, ça se développe, c'est terrible. En plus, quand ça marche pas sur place, ils vont faire des attentats partout. Bon, bah écoute, et alors? Je veux dire, la chance
vous
que
vous diriez
nous avons...
que les revers enregistrés en Syrie, oui, en Irak actuellement, sont, oui, une bonne nouvelle pour l'Afghanistan?
Disons que ils vont en quelque sorte changer de fusil d'épaule et multiplier les attentats à l'extérieur. Bon, nos chances de mourir d'un attentat islamiste sont de 1 sur 1 million. Il n'y a pas de quoi se faire peur.
Mais écoutez, ce sera le mot de la fin. Gérard Chalian, je vous remercie. Parce que malheureusement, géopolitique, le débat touche à sa fin pour aujourd'hui. Je vous remercie. Nos invités étaient donc le chercheur Jean-Luc Racine, Gérard Chalian, ainsi que le journaliste écrivain Jean-Pierre Perrin. Alors, à l'attention de nos auditeurs, je précise que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet www.rfi.fr. Et enfin, un grand merci à Nathalie Laporte, la réalisatrice de cette émission. Bonne continuation sur RFI.